16h52, salut Raph.
Salut Pat.
Donc, écoute, tu veux revenir sur la grippe dite espagnole, comme nous le rappelle tout le temps Paul Oud, parce que pas vraiment en Espagne qu'elle est née la fameuse pandémie de 1918.
Non, et en fait, on ne s'entend pas historiquement par rapport à l'origine officielle. C'est-à-dire que plusieurs théories, Paul, je sais, en a souvent parlé en onde de la possibilité que la grippe espagnole, entre guillemets, provienne originellement de la Chine. Or, j'ai lu une œuvre, en fait, qui est carrément colossale, il n'y a pas d'autre façon de la qualifier, là, qui s'appelle The Great Influenza, qui parle de la grippe espagnole et qui explique que, en fait, l'hypothèse la plus plausible serait que la grippe espagnole viendrait, en fait, des États-Unis. Plus spécifiquement d'un tout petit comté dans le sud-ouest du Kansas qui s'appelait le comté de Haskell. Agricole, il y a à peu près presque, en fait, pas d'êtres humains ou presque qui habitaient là. Et c'est là qu'il y aurait eu le tout premier cas recensé, évidemment en 1918. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme n'importe quel virus, pour survivre, le virus doit pouvoir se propager. Et donc, dans ce cas-là, parce que c'était un coin qui était tellement isolé, normalement, le virus serait mort parce qu'il n'y avait pas de façon de voyager en temps normal. Mais en 1918, on n'était pas en temps normal, on était en temps de guerre. Et ce petit bled-là était à peu près à 500 km de quoi? D'un camp militaire, le camp Funston. Et il y aurait eu des soldats américains qui seraient venus visiter des membres de leur famille à Haskell, aurait contracté le virus, l'aurait après ça ramené au camp Funston, après ça, ça aurait fait un camp à l'autre, et tout ce beau monde-là s'était ramassé où éventuellement? En Europe, ça a fini comment? Entre 50 et 100 millions de morts. C'est quand même assez hallucinant quand tu y penses comme ça. L'espèce de nature aléatoire de l'histoire et qui fait en sorte qu'on appelle ça la grippe espagnole, mais certains pourraient dire que ça aurait dû être appelé en fait la grippe américaine.
Oui, hein, quand on sait à quel point Donald Trump a incité pour rebaptiser le virus actuel. Ouais.
Le virus de Wuhan.
Le virus chinois même.
Ouais.
Donald Trump l'appelle le virus chinois. Fait que si on y va avec cette logique-là, la grippe espagnole était peut-être la grippe américaine. Je veux qu'on se parle aussi de comment c'était la grippe espagnole. Parce que c'était d'une horreur, dépendant de la région. On a certaines régions aux États-Unis qui ont été largement épargnées, mais d'autres, notamment la ville de Philadelphie, qui était un véritable épicentre. Et à Philadelphie, il y avait tellement de morts que il y a des rues sur lesquelles ce qu'on faisait, c'est qu'on affichait sur la porte de la maison du papier crépon. Et le papier pouvait être soit de couleur blanche, de couleur grise ou de couleur noire, dépendant du groupe d'âge auquel appartenait la personne qui venait de mourir. Parce que la grippe espagnole, et ça c'est vraiment intéressant dans le contexte dans lequel on se parle, ça ne ciblait pas uniquement ou même de façon disproportionnelle un segment de la population. Ce que ça avait en fait, c'était une courbe de mortalité en W, ce qui est très très inhabituel parce que ça voulait dire que non seulement c'était des très jeunes enfants et des personnes très âgées qui en mouraient, ce qui ça est vrai de beaucoup de virus parce qu'évidemment ce sont les personnes qui tendent à avoir les systèmes immunitaires les plus faibles, mais aussi de façon extrêmement prononcée des jeunes adultes. En fait, les jeunes adultes sont ceux qui ont fait les plus grands frais de cette grippe-là. Et donc, sur certaines rues à Philadelphie, on avait plusieurs papiers crépons. On pouvait avoir deux noirs, un blanc. Et sur certaines rues, incluant, et c'est ça qui est fascinant dans le livre, on cite même la ville, la rue où sur laquelle pardon, j'habitais moi-même quand j'habitais à Philadelphie, la rue Spring Garden, c'était une maison sur deux qui avait au moins un papier crépon.
Et Raphaël,
imagine la souffrance.
Ouais. Raph, tu parles de Philadelphie. Je pense qu'il y a une étude, là.
Ouais.
C'est un cas célèbre. Philadelphie versus Saint-Louis.
Oui.
Philadelphie a pas voulu prendre des mesures très, disons, là, musclées au début de la pandémie. On a continué à permettre les rassemblements publics, etc. Saint-Louis, semble-t-il, a agi de façon très proactive. Il y a eu beaucoup, beaucoup plus de morts à Philadelphie. Là, c'est un cas qui est encore étudié aujourd'hui.
Absolument. Et il y en est question, justement, dans le livre qui a été publié, soit dit en passant, il y a à peu près 15 ans. Donc, ça n'a pas été publié là, dans le contexte de ce qu'on vit présentement. Et déjà, à ce moment-là, on le ressensait ce cas-là. Sans rentrer dans toute l'histoire, pour ça, il faut vraiment lire le livre. Mais c'était en bonne partie une question politique. La machine politique de Philadelphie à l'époque, qui était une machine républicaine, c'est rendu une ville ultra-démocrate, mais à l'époque, c'était ultra-républicain, ne voulait pas fermer. Et la ville a payé carrément en vie humaine. Parlant de vie, il nous reste quoi, à peu près une minute. Évidemment, ça s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, cette affaire-là. Il faut réaliser l'impact que ça a eu sur l'histoire. Et ça, honnêtement, j'avais jamais entendu ça. C'est ahurissant. Ça, c'est carrément à en donner des frissons. Woodrow Wilson était le président américain à cette époque-là. c'est lui qui était président quand les États-Unis ont fini par gagner la Première Guerre mondiale avec les Alliés, les Britanniques, les Français, etc. Et Woodrow Wilson faisait partie des gens qui ont contracté la grippe espagnole, non pas dans sa première ni sa deuxième, mais dans sa troisième vague, fin de 1918, début 1919. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, on négociait les principes d'après-guerre. Et Wilson était tellement incapacité par la grippe qu'il a négocié ça tout croche. Et ses propres conseillers ont dit, si jamais tu signes ce que tu vas signer, on va se retrouver en guerre avec l'Allemagne en l'espace de quelques années. On connaît la suite de l'histoire.
Wow, fascinant tour d'horizon. Merci beaucoup, Raphaël. Rappelle-nous le titre du livre.
The Great Influenza, un chef-d'œuvre.
Donne le goût de le lire.
C'est extraordinaire.
Parfait.